Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 15 septembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en progression, 116 330 dollars à plus 0,43 depuis la réouverture des futurs. On voit que du côté des altcoins, ça raccroche le wagon après un week-end qui a été un peu en demi-teinte, mais c'était une petite pause qui était tout à fait normale, notamment avec un Ether aujourd'hui qui se construit à 4650, un Solana à 243 dollars, un BNB à 930, donc ça se passe plutôt pas mal pour ce top 10. Quand on recule jusqu'au top 20, on a le Crow de Crypto.com qui recule de moins 3,50 sous les 24 centimes. Progression de 7% pour Monero et plus 14% en hebdo. Mantle, pareil, très très bonne semaine. La semaine dernière pour Mantle, 26e place, 42%. On a moins 4% pour Worldcoin, moins 3,69 pour Memcore et ensuite on clôture le top 50 avec pas mal de moins 3, moins 4 d'ailleurs à partir du top 40. Et ceci étant dit, Algorand, Sei et Gate Token sont aujourd'hui tous capitalisés au-dessus des 2 milliards de capitalisation. D'un point de vue du 4 heures, les open interest sont toujours relativement flat, mais ça nous a permis de recouvrer depuis le point bas récent des 107 000 et jusque à 100, quasi 17 000 d'ailleurs, la médiane de range qui se trouve par ici. On va voir si ça arrive à passer sur ce début de semaine, le tout avec un crypto fiat grid à 53 sur la neutralité. Toujours pas d'euphorie, bien entendu, du côté des réseaux sociaux et la borne supérieure de ce range qui est composé entre ces fameux 117 000 et quelque part entre les 122 à quasi 125 000 dollars que constitue le point haut actuel et pour le moment du côté de Bitcoin. Au niveau des infos, il ne s'est pas passé énormément de choses ce week-end et je voulais commencer par cette petite phrase ou du moins ces deux mots qu'on peut retrouver dans Matrix premier du nom. Il s'agit de Temet Nosse et tout simplement on peut traduire ça par connais-toi toi-même et clairement sur les marchés, je pense qu'aujourd'hui c'est la chose la plus importante. La découverte de ce que nous rencontrons comme difficulté, que ça soit dans le positif ou dans le négatif en cours de route. Et petit à petit, c'est un constant apprentissage qui nous permet à la fois de gagner en humilité quand on est sur les marchés, puisqu'on va avoir tendance bien souvent à avoir dans les phases d'euphorie ces moments où on va être littéralement pris par toute la frénésie, notamment des réseaux sociaux, le côté égo. On a l'impression de devenir un peu le nouveau loup de Wall Street et le marché crypto a ça pour lui de nous rappeler à la réalité très régulièrement et dans des proportions auxquelles parfois on peine à s'attendre justement lors des fameux bear markets. Donc c'est pour ça que ces dernières années, peut-être oui, j'ai eu un biais qui était un peu plus pessimiste qu'en 2021, normal. En même temps, comme vous l'avez vu, le cycle a été fondamentalement très différent de 2020-2021. Donc je vais essayer malgré tout de travailler de mon côté pour ne pas justement être en permanence sur la défensive vis-à-vis du marché. Mais là, aujourd'hui, quand on regarde le S&P 500, quand on regarde le marché crypto, il y a beaucoup de choses très positives, bien entendu, à en dire, mais il y a aussi certaines zones de surchauffe qu'il faudra tout simplement ne pas occulter pour ne pas se retrouver piégé ou bloqué, en tout cas. Crypto Sapiens, qui nous a fait une petite vidéo du dimanche, je ne peux que vous inviter à la consulter. Ça peut vous donner un peu plus, là aussi, de profondeur sur ce qui est en train de se dérouler on-chain. Le résumé, en grosso modo, c'est que pour l'instant, là aussi, il n'y a pas de surchauffe. The Rational Root qui nous met en avant le Chan donc par rapport au Bitcoin au long terme. Et donc, vous avez la petite courbe en vert également qui nous donne le court terme, le short term holder basis. Donc, le coût d'acquisition qui a été défendu récemment et que là aussi, on avait vu avec Onchain Sapiens. Donc, c'est plutôt cool de voir que finalement, maintenant, quand on observe les métriques fondamentales du Bitcoin, que ça soit le hash rate qui vient de dépasser un record absolu historique, que ça soit du côté du on-chain qui est pas mal défendu pour le court terme, le moyen terme, le long terme, et je pense que ça aura toute son importance. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait la dernière fois justement off avec Adrien de On-Chain Sapiens, que on aurait une vraie valeur ajoutée, une plus-value quand on sera dans les extrémités de marché, tant dans l'euphorie, quand on dépassera les bornes à la hausse, que lorsqu'on viendra dépasser le pessimisme à la baisse, justement, quand tout le monde a envie de vendre tout à n'importe quel prix, tellement on a l'impression que le marché ne va jamais s'en relever. Bitcoin dominance avec Bob Lucas, on se dirige tout droit vers les 55%, on aura une autre zone entre 48 et 50, et ensuite, on passe dans le range vraiment inférieur, entre les 48 autour des 40%, 38-40. Je suis toujours pas un fervent défenseur de dire que au vu justement de l'engouement qu'il y a désormais sur Bitcoin, au vu des stablecoins qui sont disponibles et qui connaissent aussi une croissance qui est phénoménale, voilà, voir aujourd'hui la dominance comme ça des altcoins venir autour de 38%, ça me paraît quand même un peu aventureux par rapport à tout ce qu'on a traversé sur ce cycle en particulier. Par contre, revoir cette fameuse dominance lors d'une alt season autour des 50%, quand on est à 57% aujourd'hui, ça ne me paraît pas si déconnant que ça. La TVL, c'est-à-dire tout l'argent qui est bloqué dans les protocoles de la DeFi, qui vient de nous faire un nouveau point haut, autour de 330 milliards, donc au cycle précédent, on s'était arrêté juste au-dessus des 250-255, un hiver DeFi qui avait été propulsé en amont du bear market de 2022, donc ça s'est amplifié par la suite, bien entendu, mais voilà, le secteur de la DeFi avait connu une telle envolée entre 2020 et 2021, voire 2022, on était là pour le couvrir, notamment avec ce fameux ETH Land qui par la suite est devenu AAV. Et aujourd'hui, donc, après un point bas où on est venu visiter autour de 50 milliards en fameuse TVL, donc c'est Total Value Locked, on a eu là aussi une croissance de nouveau qui a été assez extraordinaire sur cette fameuse DeFi. Et si je dis toujours pas de bêtises, aujourd'hui AAV représente un bon 70%, je crois, de l'ensemble. Donc voilà, on a un ponte parmi les pontes, mais qui aujourd'hui représente à lui seul une bonne grosse partie en effet de ce domaine de la finance décentralisée. Il y a deux jours, donc juste avant le week-end, on continuait d'avoir des inflows très positifs du côté de Bitcoin, 642 millions pour les ETF spot, et du côté d'Ether on était à 400 millions, sachant que la journée d'avant c'était 550 pour Bitcoin et 113 pour Ether. Solana, je le mets pas forcément en avant au niveau des ETF spot, puisque pour l'instant c'est du 5 millions par jour, voilà, il n'y a pas de quoi s'exciter. Et Coinbase qui est à la 267e place à plus 21, donc ça aussi, du moment que ça rentrera dans le top 100, le top 50, voire le top 10, vous savez que c'est un signal de surchauffe absolu. On a le quadruple Witching Day qui viendra ce vendredi, donc une journée avec beaucoup de volatilité, et d'autant plus sur une semaine où on va avoir ce mercredi la décision du FOMC et de la Fed quant à la fameuse baisse de taux. Donc beaucoup spéculent bien entendu sur une première baisse de taux de 0,25 points, d'autres disent qu'on pourrait aller tirer jusqu'à 0,50, ce qu'ils appellent un jumbo. Les plus optimistes d'entre eux disent qu'on devrait avoir deux fois 0,50, d'ailleurs, au vu du retard de la Fed et de Jérôme Powell. En tout cas, c'est ce qu'ils alimentent comme narratif et qui est très suivi, bien entendu, par l'administration Trump, qui voudrait, dans le meilleur des cas, pouvoir virer Jérôme Powell. Donc pour l'instant, on en est là, mais on est sur une semaine de volatilité. Je me rends compte que je ne vous ai toujours pas dit, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le fameux triple Witching Day, donc le jour des trois sorcières, et le quadruple Witching Day, c'est tout simplement les troisièmes vendredis de chaque fin de trimestre, si je ne dis pas de bêtises, où on a un débouclage massif de tout ce qui est options, futures, voilà, tous les contrats à terme où on a beaucoup, beaucoup de contrats qui viennent à expirer justement sur ces dates, ce qui a tendance à créer pas mal de volatilité. L'action de Tesla qui, pendant la nuit et hors ouverture des marchés, a franchi les 400, je crois qu'on est à 405$ ce matin, tandis qu'elle avait clôturé autour de 395, donc vendredi dernier. Là aussi, on a un break probablement qui est en cours pour Tesla, à voir si derrière ça valide totalement et si on rentre en price discovery, puisque je crois que la découverte de prix réel est autour de 475$. On va vérifier ça dans un instant. Grégory Raymond qui met en avant que le géant Tether avec le fameux USDT vient de présenter le USAT, donc un nouveau stablecoin dollar, cette fois-ci conforme à la réglementation américaine. Un proche de Trump a été nommé à la tête de la filiale. Donc en ce moment, vraiment, bon, la famille Trump, on peut dire qu'ils mettent les petits plats dans les grands vis-à-vis de ce qui se passe du côté de la crypto, pour pas partir, voilà, dans des délires un peu à la fois complotistes ou accusatoires. Mais bon, la question que je me pose, moi, pour la suite, finalement, c'est que les politiques vont et viennent, peu importe de quel bord ils soient ou de quelles affinités, notamment envers la crypto ou non. Et d'un autre côté, si l'administration qui vient après s'appuie justement sur ce qu'aura mis en place et fait en termes de délit d'initié ou d'autres choses, cette administration, est-ce qu'on n'aurait pas de nouveau le robinet qui va venir se fermer complètement, ou en ce moment on est plutôt sur de l'eau très chaude et ensuite on aura de l'eau très froide? Voilà, je me pose quand même pas mal de questions pour les 3-4 ans qui viennent. Alexandre Baradez qui nous met en avant que le chiffre de la confiance des consommateurs aux États-Unis est en deçà des attentes, puisqu'on attendait 58 58, ça doit être 58%. Je ne sais pas si c'est noté sur 100, mais bon, on était à 58. Et donc, il en est ressorti autour de 55,4. Ce n'est pas un delta énorme, mais ça démontre que petit à petit, là aussi, ce symbole de la stagflation au niveau des États-Unis, on a le consommateur qui est moins enclin, justement, probablement à la dépense, qui voit peut-être d'ores et déjà les prix flamber vis-à-vis des tarifs, puisqu'il ne faut pas oublier que dans un premier temps, tous les médias, et notamment sur X, comme d'habitude, ont monté en épingle le fait que c'était trop génial les tarifs pour les États-Unis. Mais à partir du moment où on risque d'avoir une réplication de la hausse des prix, notamment localement, eh bien, c'est le consommateur final qui risque d'en payer les frais. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec une inflation qui, en plus, n'est pas maîtrisée autour de 3%, la baisse de taux qui ne va pas du tout améliorer tout ça, puisque c'est des vases communicants. Normalement, à partir du moment où on a une inflation qui remonte, on devrait soit avoir des taux qui sont gelés, voire augmenter ces fameux taux plutôt que de les baisser. Donc là, voilà, on a quand même des choses qui sont en cours qui nous laissent à penser que 2026, l'économie américaine devrait se prendre de nouveau une petite tatane. Alors, petite tatane, ça peut être entre moins 5, moins 10, sans aller chercher le moins 20% qu'on avait eu au moment justement de la propagation de ces tarifs de Trump. Mais voilà, on risque quand même en 2026 d'avoir un bon truc. Et si jamais c'est le scénario un peu plus récession qui venait à être joué, ça ne veut pas forcément dire que l'économie des États-Unis rentrera en récession, mais vous savez à quel point les marchés aiment fonctionner au niveau des narratifs. On pourrait en effet avoir de nouveau un moins 20% et plus sur des indices comme le S&P 500, où vu que c'est monté énormément depuis ce V-bottom qu'on a eu depuis le tarif de Trump, moins 20% est tout à fait de l'ordre du possible. L'analyse technique, on va partir en mensuel aujourd'hui, ce qui nous permettra d'avoir une image de fond plutôt clean, et donc on part avec le others, c'est-à-dire le crypto total market cap qui exclut le top 10. On voit qu'on est juste sous la zone des 350 milliards et on a un ATH aujourd'hui de 2021 à proche de 500 milliards. Donc on a encore de la route devant nous. Le crypto total incluant absolument tout, on est à 4000 tout pile aujourd'hui. Là aussi on a un break qui est en train de se faire en mensuel. Accélération au niveau du MACD, tandis que quand on regarde en hebdomadaire, on a un ralentissement. Donc le journalier, bon, c'est un peu trop court des fois pour être exploité. L'hebdomadaire, on sent qu'on a eu un ralentissement, mais peut-être que c'est maintenant entre mi-septembre et mi-octobre où on va avoir l'accélération finale. Et au niveau du chart, comme ça, en mensuel, il est vrai que pour l'instant, rien ne sert de s'inquiéter immédiatement. Mais d'un autre côté, si on prend en considération que c'est la poussée terminale de ce cycle, on doit d'ores et déjà avoir un plan de sortie et probablement même sur la zone qu'on est déjà en train de travailler, et je le vois du côté de notre Discord, il y a pas mal de personnes qui prennent des profits, commencer doucement mais sûrement à faire un DCA. Que ça soit agressif ou non, vous pouvez tout à fait vous dire, ok, je sors que 10%, 15% de toutes mes positions, comme ça je commence à reconstituer un tout petit peu mon bac de cash, et ensuite le but n'est jamais de se désexposer à 100% d'un marché, c'est juste d'essayer de faire croître son patrimoine, que ça soit dans la crypto, que ça soit dans les actions ou peu importe, pour petit à petit pouvoir justement alimenter le jour où on aura un fameux moins 20, moins 30, peut-être moins 50% du côté du marché crypto, ce qui se traduirait du côté de la bourse traditionnelle par du moins 10, moins 15, moins 20 comme on l'a déjà vu justement autour du mois d'avril au moment de Trump, ou bien même ce fameux 5 août 2024 lorsqu'il y avait eu la problématique autour du yen carry trade japonais. Le crypto total 2, c'est encore plus représentatif de ce pas de tir à 1700 milliards ce matin. On a l'ATH à 1710, donc c'est peut-être la semaine du départ de l'alt season si on y regarde bien pour cette mi-septembre, sur un mois de septembre qui probablement va défrayer la chronique, en tout cas pour l'instant où on a l'impression que ça y est, les étoiles sont alignées, la liquidité va être débloquée quelque part par cette baisse de taux. Alors bien entendu, je mets quand même un petit disclaimer, si ce mercredi Jérôme Powell n'allait pas dans le sens du marché, vous vous doutez bien que c'est un énorme champignon nucléaire qui viendra s'imprimer sur nos graphiques, et à minima s'il va dans le sens du consensus, on peut aussi tout à fait avoir dans un premier temps un peu un sell the news, c'est-à-dire les marchés qui accusent le coup en se disant ok, c'est bel et bien ce qu'on avait pricé en amont, puisque ça aussi c'est quelque chose que vous devez retenir, les marchés ont tendance à énormément anticiper sur on va dire un ratio de un trimestre à un semestre. Donc ce qui est en train de se passer maintenant et aujourd'hui par rapport à l'économie et notamment le S&P 500 qui est monté en mode tyrolienne sans jamais s'arrêter, c'est la baisse de taux qui va être actée maintenant, ce qui veut dire que potentiellement d'ici la fin d'année, on peut là aussi avoir une baisse conséquente, alors même qu'on vient de baisser les taux. Donc toujours avoir ce truc quelque part en tête de se dire que c'est contre-intuitif de réfléchir comme ça, mais c'est exactement comme ça que fonctionnent finalement les marchés. Également toujours avoir un petit œil du côté de la dominance des stablecoins, donc pour l'instant elle est bloquée autour de 0.06, mais on voit que depuis un bon semestre, on est complètement à plat sur cet indice et au niveau du MACD ici en bas. Donc le jour où ça remonte fortement, ça veut dire que le marché crypto est en pleine correction. Le jour où tout ça est distribué, ça veut dire que les stablecoins sont dépensés. Donc pour l'instant, on est sur une zone quand même relativement de support vis-à-vis des stablecoins, donc on espère à minima revoir les 0.05, ce qui voudra dire que tous les stablecoins qui ont été mintés récemment sont dépensés, et notamment du côté des altcoins. Le Bitcoin en tant que tel, on attaque par sa dominance, donc qui pour l'instant est sur ce fameux support des 57. On passera en dessous du support si on passe sous les 55. Aspiration, comme on l'a vu tout à l'heure, entre 48 et 50, donc pas plus, pas moins. Les 117 pour Bitcoin, donc quand on regarde comme ça en mensuel, eh bien pareil, est-ce qu'on a la force finalement pour Bitcoin d'aller chercher les 130, les 140, les 150 ? Je me pose pas mal la question. On a le MACD qui là aussi, en termes de momentum, nous donne pas forcément d'indication, mais qui nous montre que si ça se laissait affaiblir sur justement cette fin d'année 2025, on pourrait avoir le croisement qui se passe et probablement rentrer en bear market, peut-être pas immédiatement janvier 2026, mais après le premier trimestre 2026 ou quelque chose dans ces eaux-là, ce qui finalement serait tout à fait dans le timing de ce cycle. Donc après, si je me place dans, on va dire, la vision qu'ont bon nombre d'autres participants au marché de dire « Ok, le cycle de 4 ans est fini, ok, on va prolonger un petit peu plus, la baisse de taux à répétition pourrait prolonger le propre bull run du marché américain et par corollaire des marchés à risque comme le marché crypto », oui, ça peut tout à fait s'entendre et je ne mets pas aujourd'hui en avant le fait que forcément on va rentrer en bear market en 2026. Mais d'un point de vue, on va dire peut-être pas statistique, mais d'un point de vue du ressenti qu'on pourra en avoir au vu du fait qu'on a des marchés qui aujourd'hui sont extrêmement hauts et bien valorisés, ça pèse quand même plutôt pas mal dans la balance pour une correction multimarché qui serait probablement assez marquée courant 2026. ETH, c'est la même musique. Donc pour l'instant, on est sur 2 mois d'accélération ici et on le voit, c'est très bien retranscrit par le fait qu'on est passé dans ces 2 mois $2,400 à quasiment 5 000. On finit de consolider entre les 4 000, 4 100 et les fameux 5 000. Là aussi, ça pourrait partir dès cette semaine. Et à partir du moment où on libère ETH, après une contraction de prix qui dure quand même depuis mai-automne 2021, je pense que ça ne sera pas pour s'arrêter immédiatement à $5,500, bien entendu. Et après, les targets, on les a vus précédemment. On a un premier FIBO autour de 7 000, 7 500, peut-être 7 700, et un autre qui nous propulse au-delà des 5 chiffres pour Ether, puisqu'on était entre 10 et 11 000 dollars. Donc ça vous donne 2 objectifs techniques qui là aussi ne sont pas des objectifs complètement fous, puisque pour la personne qui rentrerait sur le break justement des 5 000, eh bien admettons qu'on va à 7 500, c'est 50% de performance. Admettons qu'on va à 11 000, allez, dans le meilleur des cas, ça fait 125% de performance. Alors vous allez me dire, c'est pas quelque chose qui est négligeable comme perf, mais quand on voit que là, en 2 mois précédemment, eh bien, quand il est passé de 1004 à quasi 5000, on a fait 240%. Eh bien voilà, comme d'habitude, il faut doser le risque que vous allez allouer justement vis-à-vis de la performance que vous allez pouvoir rentrer. Du côté des taux américains, le 2 ans est à 3,56, le 5 ans à 3,64, le 10 ans à 4, le 20 ans à 4,66, le 30 ans à 4,70, sachant que la semaine dernière à peine, on était encore autour de 5 points pour le US 30. Donc on voit d'ores et déjà que ça a baissé, ce qui fait que les personnes qui ont acheté de l'obligation la semaine dernière à 5 points sont aujourd'hui à la fois en gain par rapport au rendement qui a été sécurisé et par rapport au prix de l'obligation qui lui a augmenté du fait que ce taux lui a baissé. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais en gros c'est des vases communicants. Quand le taux effectif de l'obligation baisse, vous avez le prix de votre obligation qui monte. Quand le taux de votre obligation monte, vous avez le prix de votre obligation d'actions qui lui baissent. Donc voilà, c'est des vases communicants, c'est la seule chose à en retenir. Le gold qui ce matin, 3642$ long, se consolide, et là pareil, on voit qu'on est en extrême surchauffe en mensuel. Toujours pas de signe de faiblesse au niveau du momentum MACD. Peut-être qu'on a la force d'aller chercher 3008 voire 4000 pour le gold, mais pareil, verticalité absolue. C'est un chart qu'on a envie de voir sur n'importe quel autre chart des altcoins actuellement, et j'espère pour nous tous bien entendu qu'après des périodes d'aplats, ben voilà, quelques alts vont enfin s'envoler. Du côté des sociétés liées aux crypto, on a Bitmine Immersion Technology, BMNR, qui est aujourd'hui le plus gros détenteur en mode ETF, ETH. Donc là aussi, énormément de volatilité. C'est un peu trop dangereux pour moi de jouer à ça sur ce cycle, et c'est un peu trop tard peut-être. Après, pour ceux qui aiment avoir une grenade dégoupillée entre les mains, pourquoi pas. On avait Hive également, qui a repris son support la semaine dernière, ou du moins qui s'était transformé en résistance autour des 3 dollars. On a 3,81 $ et on a une belle zone de polarité à 5,67 $ pour des points de 2021 qui étaient autour de 28 $. Donc là aussi, à vous de voir. Il va falloir faire une petite étude un peu plus poussée vis-à-vis justement des fondamentaux. Ceci étant dit, momentum MACD qui commence à accélérer sous la zone neutre en mensuel. Le RSI qui est bien orienté. Depuis 2-3 mois, on a énormément de volume qui est exécuté. Donc pourquoi pas. Bitfarm, s'il est en train de rattraper son retard, mais pareil, zone dure à venir, donc autour de 2,70 $ à 3,40 $. On avait Marathon également à 4 $ qui est en train de latéraliser, donc ça peut être un peu moins intéressant. Canaan, comme on l'avait vu la dernière fois, qui est en train d'essayer de raccrocher le support devenu résistance, donc il nous faudra passer au-dessus du dollar symbolique pour vraiment relancer la machine. 323 $ pour Coinbase, qui avait défendu donc le 0,382 proche des 290 $. Pareil, on est plutôt sur une fin de cycle. On sent que chaque rebond est un petit peu inférieur au précédent. C'est exactement ce qu'on peut observer finalement du côté de Bitcoin. À chaque fois qu'on a un escalier, le suivant est un petit peu moins important que le précédent, ce qui laisse aussi à penser que petit à petit, le momentum, même si c'est pas très bien retranscrit pour l'instant en mensuel, puisque le mensuel lag énormément, est en train de s'affaiblir pour le marché crypto. Et c'est tout à fait normal, puisque si on joue en effet le fait qu'on est plutôt sur la terminaison du cycle, on le voit, on a des très gros portefeuilles, des baleines qui continuent de ventiler des bitcoins. Et à partir du moment où on va avoir cette parité qui sera en mode déséquilibre avec plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien c'est là où on va commencer à avoir une baisse un peu plus importante et qui va s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. AltBG, pour ceux qui ont un PEA, The Blockchain Group, alors après une progression complètement folle pour le coup en 2025 de 7000%, il était en correction depuis environ 3-4 mois, où on a reculé de 74%. Aujourd'hui, est-ce que, voilà, après cette petite toupie qui est en cours ici, ça va être la stabilisation? Là aussi, c'est un peu trop volatile pour ma part. Il faudra attendre que quelque chose se pose ou se casse finalement sur ce cycle. Comme on l'avait vu pour Circle également, on a eu le rattrapage donc autour des 108-115. Et pour l'instant, ben, statu quo est pareil. On est sur une action qui est tellement jeune que quand on regarde comme ça en mensuel, on n'a pas énormément d'historique. Tesla en mensuel toujours, eh bien c'est plutôt propre hein, quand on regarde comme ça. Donc on a un ATH avec cette mèche à venir chercher autour de 487 $. Tesla qui historiquement a tendance à faire des très longues phases comme ça de latéralisation dans un grand range et ensuite des phases d'expansion. Aujourd'hui, on peut considérer en effet que on est dans le troisième grand range de l'action Tesla. Est-ce qu'elle va enfin partir? Eh bien là est toute la question. Et comme je disais la dernière fois, c'est une société qui, sur le papier, a tout pour devenir une Apple des années 2025 à 2050. Et de notre côté, on a un dirigeant, en effet, qui a à la fois des points très positifs et à la fois des points très négatifs. Donc, c'est difficile hein, de défendre la position du côté de Tesla, d'être positionné justement tout court sur cette action. Et je peux comprendre aussi le côté fondamentalement lié aux valeurs humaines aussi que certains défendent. Donc, bien entendu, moi, le but sur cette chaîne n'est pas ni de faire de la propagande anti ou pro Tesla ou Musk, loin de là. Et petit à petit, j'ai moi-même évolué sur le sujet avec pas mal de prise de conscience vis-à-vis de bon nombre d'autres sujets annexes quelque part. Mais aujourd'hui, je vous donne tout simplement ce qui est en train de se passer d'un point de vue technique vis-à-vis de la société et de l'action Tesla. Typiquement, quand on parle de momentum et de hype et de tout ce qui va bien, maintenant, eh bien, on a Robin Hood, on le voit, ça fait depuis ces points ici de décembre 2023, sur lesquels on s'était positionné au moment où on commençait à avoir un petit peu de volume qui rentrait. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des performances sur Robin Hood, si vous avez suivi ou non, mais aujourd'hui, eh bien, on voit premièrement qu'on est dans un grand canal parallèle ascendant, donc ça saute un peu aux yeux pour n'importe qui ferait de l'analyse technique basique, on a quelque chose dans ces eaux-là. Mais d'un autre côté, eh bien, on est aussi en bout de course ici pour moi, avec un momentum qui est toujours en accélération au niveau du MACD en mensuel, mais si on commence à regarder en hebdomadaire, eh bien, on n'est pas très loin de croiser. Et on a un histogramme qui s'est complètement affaibli, le tout sur une petite zone ici où on est dans un range certes, mais on a l'introduction au S&P 500 de Robin Hood. Donc clairement, si on prend en considération que oui, on a un petit tunnel comme ça, un petit canal parallèle ascendant et qu'on se l'ajuste un petit peu comme ça en hebdomadaire, on voit qu'un simple retour sur la borne basse de ce canal, c'est un retour à 55$. Et c'est là où il faut savoir, nous, en tant que spéculateurs avisés, jauger du risque que l'on prend, puisqu'aujourd'hui, si on rentre maintenant pour Robin Hood, avec tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu de pricé aujourd'hui dans cette société, et rappelons-le, puisque je ne vous ai pas donné la performance en positif, mais c'est une société qui a pris en moins de 2 ans 1450% au niveau de son cours, eh bien, voilà, aujourd'hui, un simple retour en bas de Chan, on est à moins 55 et même ça ne serait pas déconnant de venir chercher du moins 63 à moins 70 pour Robin Hood. Et je pense que lors du futur bear market crypto, c'est tout à fait ce qu'il attend au niveau de cette action, puisqu'elle est quand même pas mal liée à la spéculation de ce qui se passe au niveau crypto. Alors pas que, hein, puisque c'est un broker généraliste avec aussi les actions, etc. Mais ils ont su pas mal surfer sur la hype jeune, sur la hype crypto. Et je pense aujourd'hui que intrinsèquement, ça sera lié au futur bear market et la revoir entre moins 50 et moins 70 Robin Hood. Si bear market il y a en 2026, ça me semble là aussi pas déconnant du tout. Au niveau des performeurs du moment, et on a finalement ce fameux Swissborg qui est en train de revenir au contact de la zone folle des 35 à 40 centimes, comme on l'avait vu la dernière fois. Là aussi, ça fait très longtemps qu'on fait le yo-yo dans cette zone, hein, puisqu'on y était rentré dès mai 2022. Donc à partir du moment où on arrive à s'affranchir de cette zone, on pourrait avoir une poussée un petit peu plus conséquente. Et ensuite, du côté des autres altes, pas plus, pas moins que ce que je vous ai dit dans les dernières émissions. J'avais passé l'ensemble des altes, d'ailleurs, dans une émission il y a quoi, moins d'une semaine. Et ensuite, je vous ai fait, en fin d'émission, ces 2-3 dernières, les altes qui me semblaient porteurs avec des zones techniques, notamment comme Avalanche, autour de 30$, où on est pile poil sur la médiane de range. Et là, d'un point de vue du ratio risque-récompense, si on passe dans la borne supérieure, eh bien, dans un premier temps, on va chercher les 56, pourquoi pas les 65, ce qui fait que déjà on a un x2 à venir chercher ici, alors qu'on peut se mettre un stop juste en dessous autour de 25$. Donc là, je vous parle un tout petit peu plus d'un point de vue trading et d'un point de vue gestion du risque de ce qu'on appelle un risque ratio récompense. Donc combien je risque et notamment de perdre, à partir de quel moment je peux couper ma position si ça devient trop dangereux et combien je peux espérer gagner en retour. Et là on voit aujourd'hui que par exemple Avalanche est très très bien orienté. Il va falloir que je vois de mon côté justement si je prends ce fameux trade autour de 30$, parce que quand je le regarde comme ça, je me dis que j'en ai vu passer beaucoup depuis 2019-2020 des charts dans ce sens, et j'en ai laissé beaucoup justement où j'ai dit oula, ça me semble pas mal intéressant, j'ai vu la fusée partir derrière et j'étais pas dans le trade. Donc aujourd'hui, bien entendu que quand je vois des charts comme ça, ça commence un petit peu à me titiller. Bien entendu, on a Mana Decentraland aussi qui a acté son break mais qui s'est pas mal fait repousser depuis les 38-40 centimes, et quelques autres comme Ondo, on a vu la dernière fois, qui lui aussi nous faisait une épaule tête épaule inversée, zone de confluence 1,10$. Si ça passe, pareil, belle accélération à venir. Solana, ben, c'est vraiment une belle force. On a vu que ETH seul s'était retourné au moment où, pareil, on en avait parlé, je ne sais plus, peut-être un mois en arrière maximum. Le temps passe très très vite en ce moment. Allez, entre 15 jours, 3 semaines et il y a un mois, on avait vu qu'on avait un retournement qui était en cours, hein, au niveau de la force sur un Ether qui a aspiré beaucoup de liquidité justement quand il est passé de 1004 à quasi 5000, et aujourd'hui on a le retour sur sol. Ceci étant dit, est-ce que Solana, au niveau du momentum, du RSI qui est déjà aux portes des 70 en hebdo, etc., il vient de faire d'ailleurs un nouveau point haut en termes de market cap, alors qu'il n'a pas encore récupéré le point haut ici de décembre à $295. Je vois déjà des personnes sur les réseaux sociaux parler de Solana à 500 balles, voire à $1000 sur ce cycle. Ça voudrait dire un Solana à $1000 aujourd'hui qu'il pèse autant, voire plus, si jamais Ether stagnait, que Ethereum. Donc, faut quand même doser au niveau des targets et au niveau de ce que ça peut représenter d'un point de vue fondamental. Après, peut-être qu'un jour, le marché décidera de tout basculer sur Solana et que Solana viendra challenger Ethereum sur sa propre place. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même assez peu de chances que ça se passe et dans un laps de temps aussi court, justement, que ce dernier trimestre 2025. Injective, pareil, qui continue de consolider juste sous un point ici qui est désormais un support qu'on avait converti donc en résistance. La zone suivante sera autour de $20 et voilà, pas plus, pas moins. J'ai pas passé l'intégralité de ma liste, mais je suppose que vous surveillez vos propres altcoins. On avait vu Mantle la dernière fois aussi qui est très fort, mais pareil, c'est un peu trop tard pour entrer une fois comme ça qu'on a imprimé depuis juin 2025 environ 220%. Ça veut pas dire que ça ne peut pas continuer de progresser, mais voilà, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux pas mal de gens s'exciter autour du token de Pump qui a réalisé un x2 récemment. Je comprends toujours pas l'engouement, notamment de personnes qui sont là depuis plusieurs cycles, de commencer d'un seul coup à partir complètement en vrille vis-à-vis de tokens comme ça qui n'ont absolument aucun intérêt. Mais pourquoi pas, hein ? Après, il en faut un peu pour tout le monde et je suppose qu'on a atteint un tel paroxysme de frustration sur ce cycle que la moindre petite performance qui puisse sortir sur quelques meme coins que ce soit, sur quelques altcoins que ce soit, a tendance à réveiller le grand spéculateur qui sommeille en chacun d'entre nous. Le seul but aujourd'hui, c'est de ne pas se retrouver bloqué, puisqu'à la fin, ça va être un vrai jeu de chaises musicales, et je suppose que ceux qui resteront collés à la prise une fois de plus risquent de malheureusement tout perdre. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve probablement d'ici mercredi, et continuez d'être prudents. Ciao, ciao.